Ça a eu un début de soirée légèrement fun, je dirais. Voilà, tout simplement. Et normalement, si je ne me trompe pas, on ouvre tous les micros et on devrait avoir notre invité avec nous, Robert. Bonsoir Robert, est-ce que tu m'entends ?
Je vous entends très bien, bonsoir à tous.
Et nous aussi, bonne de notre côté, on t'entend très bien. Voilà, monsieur, en même temps, fait la traduction corse, puisque monsieur est corse, ne l'oublions pas, Robert Alberti, d'Ajaccio, voilà. Si je ne me trompe pas.
De Corté,
donc d'Ajaccio, si je ne me trompe pas. Ça, c'est la magagne, j'aime, j'adore. Bon, Robert, ça va ?
Ça va bien.
Tu as la forme ?
Oui.
Tu as un beau petit soleil avec toi à Nice ?
C'est la misère aujourd'hui.
C'est Corté, c'est ça.
Aujourd'hui, on se croit à Corté en décembre.
Ah putain, ouais. Je vais bien le croire parce qu'avec le... Alors c'est vrai qu'Ajaccio a quand même ce microclimat qui nous sauve toujours une fois sur deux, ouais, mais Corté en général, ça morfle. Alors, avec moi ce soir pour te faire passer sur le gris, façon de parler, Manu. Bonsoir Manu.
Bonsoir.
Tu connais le métier de monsieur ?
Ben, je l'ai appris par inadvertance.
Donc tu as préparé quelques petites questions ?
J'en ai au moins une.
Au moins une. Et la charmante Aude ?
Bonsoir Robert.
Bonsoir Aude.
Super. Alors, sans plus attendre, ton métier est psy pour chat, c'est bien ça ?
Alors psy, c'est peut-être exagéré, je suis comportementaliste. On pourrait dire psychologue plutôt que psychiatre. Déjà, je précise, je ne suis pas du tout vétérinaire.
D'accord.
Je travaille en collaboration avec les vétérinaires. Bon, j'ai passé quelques diplômes, mais pas le diplôme de docteur vétérinaire. Donc, je suis pas docteur, je suis pas psychiatre. Je suis comportementaliste, c'est-à-dire que je vais travailler sur le comportement du chat, puisque j'ai aussi un diplôme dans le chien, mais je me suis spécialisé dans le chat. Et je vais essayer de voir pourquoi le chat, qui est un membre à part entière du foyer et de la famille, pourquoi des fois ça dérape. Et pourquoi des fois il y a des chats qui sont réactifs, hyperactifs, qui détruisent les canapés, qui miaulent, qui vocalisent toute la nuit. Ou alors, une de mes consultations phares, c'est les éliminations hors bac, c'est-à-dire le pipi, caca, en dehors d'un endroit où on voudrait qu'il fasse, c'est-à-dire un peu partout dans la maison.
D'accord. Donc en fait, comme tu l'as dit au départ, tu travailles quand même en étroite collaboration avec des vétérinaires, l'un ayant besoin de l'autre, et certainement ça va dans les deux sens.
Tout à fait. J'ai un ami avec qui je travaille en particulier sur Nice, s'appelle Xavier Ozouf, et on est en totale collaboration. On a des suivis communs de clients. On va même des fois chez les clients ensemble. Et je l'aide et il m'aide et on travaille vraiment tous les deux.
Alors Robert, pour reprendre au début, je connais ton boulot d'avant, on a dit qu'on n'allait pas faire de publicité, patin coup fait, on ne revient pas là-dessus. Mais moi je le connais, mais comment tu en es arrivé à ce métier ? Qu'est-ce qui t'a attiré ? Qu'est-ce qui a déclenché ?
Qu'est-ce qui a déclenché ? Déjà une maladie qui m'a éloigné de mon ancien métier. Donc j'ai été arrêté un moment et du coup, je n'ai pas repris. J'ai, on va dire, négocié mon départ et je me suis retrouvé avec une rémission qu'on va qualifier de bonne et plus l'envie du tout de travailler dans ce que je faisais. Un amour pour les animaux que j'ai depuis l'âge de 5 ans. J'ai dû sauver mon... J'étais dans la protection animale de base. J'ai sauvé mon premier chien, j'avais 5 ans, dans une autre vie, dans un autre pays. Et j'ai toujours été proche des animaux. J'ai toujours eu des animaux avec moi, des chats, des chiens. Et puis tout un peu ce qu'on peut trouver, des oiseaux. Et j'ai toujours aussi sauvé des animaux. Mmh. Donc il y a ce désir de travailler dans le milieu de l'animal et aussi le désir de faire quelque chose de bien. Mon objectif, à terme, c'est d'éviter tout ce qui peut être l'abandon, tout ce qui peut être parfois même des euthanasies de confort, parce qu'on en a déjà parlé. Donc mon objectif ultime, c'est d'éviter ça. D'accord. Et qu'on arrive à trouver une solution pour que tout marche bien dans le foyer et que l'humain n'en arrive pas à dire « je peux plus », donc j'abandonne. Comme on peut, enfin comme ils peuvent, et après, l'euthanasie de confort. Heureusement, la majorité des vétérinaires refusent, mais
alors,
je sais que
c'est
pas mentir, certains le feraient.
Je te coupe, excuse-moi, parce que je trouve que c'est un peu grave ce que tu dis, parce qu'on parle souvent d'abandon, l'image toujours au départ des vacances des animaux sur l'autoroute. Ça, c'est une chose imagée, mais qui est réelle. Mais toi, tu vas plus loin en disant, en fait, on va brûler les étapes là, parce que ce que tu as dit m'interpelle. Et j'adore les animaux, et bien plus que certaines fois que l'être humain, pas tous, mais que certains. Tu m'embêtes en disant que certains font même euthanasier leurs animaux parce qu'ils ne peuvent pas s'en occuper ou ils ne veulent plus s'en occuper.
Non, parce que le chat, arrivé à un moment,
ouais, voilà,
j'ai des cas.
Ah, parce que j'ai eu
C'était ma question, en fait. Voilà. Donc, le confort, c'est le confort, euthanasie du confort pour l'animal. C'est ça?
Non, non, il y a l'euthanasie de confort pour l'animal qu'on peut... Un animal vieillissant, un animal malade.
Okay.
Moi, j'ai dû malheureusement faire euthanasier un de mes chats il n'y a pas longtemps. J'en souffre encore, mais c'était un choix. Il avait un cancer, il se noyait. Il avait de l'eau dans les poumons et il se noyait tous les jours.
Donc, ouais, donc ça, c'est du soin palliatif, quoi. Ouais.
Et là, bah, il arrive un moment, on est obligé d'en arriver à cette extrémité qui est dure, mais nécessaire et qu'on prend en toute connaissance de cause avec l'aide du vétérinaire qui est là pour nous aider et qui nous conseille en temps. Non, l'euthanasie de confort, c'est quelqu'un qui supporte plus son chat parce qu'effectivement, il fait pipi partout et il n'arrive pas à s'en sortir.
De confort et pour le mettre,
tout à fait.
Okay.
Et...
Pourquoi alors, tu parles pas dans le micro ?
La majorité des vétérinaires vont refuser de le faire, mais je sais qu'il y a des humains qui demandent à leur vétérinaire, j'en peux plus, débarrassez-moi de ce chat.
Oui, Robert, excuse-moi, je te recoupe à nouveau, mais c'est bien ce que j'avais compris. Donc, c'est-à-dire qu'on est emmerdé par le comportement d'un animal et on veut le faire euthanasier.
Tout à fait.
Ah oui, donc c'est bien ma question. C'est horrible, ça.
C'est pire
que d'abandonner un animal sur le coin de la route où, à la limite, on peut le prendre et il peut faire autre chose.
C'est ça. Donc moi, mon objectif ultime, c'est d'éviter ça et d'éviter aussi l'abandon, parce que l'abandon, elle peut être dramatique. Pour l'animal qui va se retrouver dans un refuge, dans une cage de 2 mètres carrés et qui ne va pas comprendre ce qui lui arrive. Mmh.
D'accord. Et comment ça se passe dans ce cas-là? Tu interviens auprès des maîtres ou de la maîtresse?
Moi, je suis contacté pour des problématiques, les problématiques dont j'ai parlé. La pire chose qui peut arriver et qui est extrêmement difficile à gérer, c'est les chats qui deviennent agressif envers le maître. Alors des fois c'est la faute du maître, des fois c'est un peu la faute des deux, des fois c'est la faute du chat. Et là les gens peuvent en arriver à l'extrémité parce qu'ils en arrivent à avoir peur. Moi j'ai des gens qui se sont fait agresser par leur chat et qui ont des séquelles, des cicatrices, parce que un chat un peu énervé, c'est beaucoup plus compliqué à gérer qu'un même un gros chien.
Je connais ça et je suis pas étonné de ce que tu dis. J'ai eu pas mal de chats dans ma vie et à certains moments j'en avais même peut-être 10 au moins. Avec un ou deux dominants, parce que même là-dedans, enfin, je dis peut-être une bêtise, mais il existe les dominants. Hein.
Alors, si on peut rentrer dans le détail, il n'y a pas de dominant chez le chat. Il y a des chats qui sont un peu plus en forme que d'autres, on va dire. Peut-être la dominance chez le chat, elle existe vraiment chez le chien, mais elle n'existe pas chez le chat.
D'accord.
En fait, le chat, il va marcher par opportunisme, et c'est celui qui sera le plus intéressé qui va gagner, et l'autre qui est moins intéressé ou il va se laisser entre guillemets dominer.
D'accord.
Mais la vraie dominance, elle suppose une hiérarchie comme dans une meute de chien ou une meute de loup, et c'est jamais ça qui se passe chez les chats.
Ok. Est-ce que il y a des questions, parce que moi j'interviens, Aude ou Manu, intervenez hein, si vous voulez reprendre.
Ouais, moi j'ai une petite question. Alors moi j'adore les animaux comme vous.
Est-ce que tu entends bien Manu, parce que
j'entends tout à fait bien.
D'accord, okay. Merci.
Et sauf que moi, j'ai un problème, c'est que je déteste les chats. Alors, attention.
Il y a une raison, Manu ? Tu as eu une mauvaise expérience avec
plus.
Un chat ?
Okay. Je ne sais plus. Évidemment,
mais le monsieur que nous avons là en direct, c'est pour les chats, hein, Manu.
Oui,
c'est pas pour toi. Tu payes la consultation,
alors,
si jamais. Hein.
Attention.
Robert, c'est 80 euros le quart d'heure. Hein.
J'ai peu d'affinité avec les chats. Je préfère dire comme ça. Non, toute violence contre les animaux, quels qu'ils soient, même les chats, je ne les supporte pas et je les condamne. Mais du coup... Si vous êtes spécialisé chez les chats, est-ce qu'il y a plus de pathologies chez eux que chez les chiens ? Ou pas ?
Il n'y a pas plus de pathologies.
Okay.
Le terme de pathologie, il est vraiment réservé au domaine vétérinaire et il est réservé à des problématiques de santé. Il y a autant de pathologies, je pense, chez les chats que chez les chiens. Avec chacun ses particularismes, il y a des maladies qui sont spécifiques du chat et des maladies qui sont spécifiques du chien. Mais on ne peut pas comparer, non, on ne peut pas dire qu'il y en a plus chez les uns que chez les autres.
Mais pourquoi ils sont plus égoïstes
Non, attends, Manu. Alors,
excusez-moi.
Je vais plus vite pour que tu comprennes, le chat, c'est Dieu.
Oui, mais voilà. Pourquoi Non, je plaisante évidemment, mais c'est vrai qu'on a toujours l'image du chat qui est très, on va dire, individualiste, et ça reste une image évidemment, alors que le chien, on a plus l'image... Du chien
c'est l'ami
le sauveur de,
la famille,
de montagne
voilà.
Tout ça, alors que le chat il dort toute la journée.
L'être humain est au service du chat, c'est tout.
Oui, voilà,
c'est
ça. Alors que chez le chat c'est l'inverse. Moi ça me posait question, et du coup vu que vous occupez de ça, je me dis, est-ce qu'il y aurait
Robert, est-ce que tu as compris la question qui me paraît être très simple ?
Oui, oui, mais en fait, c'est déjà, tu connais pas les chats, parce que je pense que tu n'aimes pas les chats, entre guillemets, parce que tu les connais pas. Alors, la différence entre le chat et le chien, c'est que le chien, c'est un animal de meute, c'est un animal qui va vivre en groupe, ouais, en bande. Le chat, c'est un individualiste, effectivement, mais dans la nature, il est tout seul.
D'accord.
Donc, par nature, il n'est pas porté à avoir des relations. Après, le chat, aujourd'hui, le chat est avec nous. Les premiers signes qu'on a trouvés de présence du chat dans la vie humaine, c'est sur l'île de Chypre, et ça date de 7000 ans avant Jésus-Christ. Ça fait à peu près 9000 ans que le chat est vraiment avec nous.
Même avant les Égyptiens, en fait. On croit que c'est les Égyptiens, mais bien avant, en fait.
C'est 2000 avant Jésus-Christ, et là, on est à 7000 avant Jésus-Christ.
Okay.
Donc, on est bien, bien avant. Ce chat-là, il n'était pas domestique, mais il accompagnait l'humain. Et aujourd'hui, on se rend compte que les chats deviennent de plus en plus proches de l'humain.
Ouais, tu veux dire
qu'il y a 15 millions de chats en France et 7 millions de chiens. Donc déjà, le chat a largement dépassé le chien. Et on se rend compte, moi j'ai des Maine Coons, je suis un ancien du chien puisque j'ai été maître chien dans l'armée. J'essaie de passer dans le canin que je maîtrise. Et je me rends compte que mes chats aujourd'hui arrivent à se comporter comme certains chiens.
Ouais,
on peut faire des tas de choses avec un chat. On peut faire de l'éducation positive, on peut leur dire de donner la patte, monter, descendre. Moi, je fais des tas de choses avec mes chats qui n'étaient pas envisageables il y a encore 10, 20 ans. Mais aujourd'hui, le chat est tellement rentré dans la famille, est tellement proche de l'homme, proche de l'humain, qu'il en arrive à avoir des comportements de
chien.
Donc
vous pensez qu'il y a une évolution finalement du tempérament du chat? Ça ne tient pas forcément qu'à la relation individuelle entre un maître et un chat. Il y a une vraie évolution, en fait, à force de côtoyer l'humain, quoi.
Moi, j'en suis complètement persuadé, intimement persuadé,
ouais.
Ne serait-ce que par rapport à l'attitude du chat. Par exemple, un chat dans la nature, deux chats entre eux ne vont pas miauler.
Ouais.
Le chaton va miauler pour appeler sa mère et la maman chatte va miauler pour appeler le chaton. On se rend compte que le chat a appris à miauler pour communiquer avec l'humain.
Ok. Ah, ça, c'est rigolo, ça. C'est pour ça que la mienne, quand elle miaule, elle m'appelle comme tout le monde m'appelle à la maison. Je vous assure, ce n'est pas une blague. Quand elle est en détresse, ma minette, elle dit « maman ». Deux syllabes. D'habitude, quand elle miaule pour parler, c'est une syllabe.
Et ton fils aussi, non.
Et voilà, mon fils aussi m'appelle « maman ». Comme tout le monde m'appelle « maman » à la maison.
Alors, Robert, je reviens parce qu'on a eu un coup d'accélération dans la présentation de ton métier. Donc, au départ, je te demandais quel était... un petit peu le déclencheur et tout. Et on a compris que très tôt dans ta vie, à 5 ans déjà, tu avais sauvé un animal. Donc très tôt, tu savais que tu voulais travailler pour et avec les animaux, si je ne me trompe pas. Mais ensuite, donc une fois, parce que tu es comme moi, on n'est pas des premiers printemps, on a quelques années au compteur. Assez tard, donc, tu t'es retrouvé avec cette idée de métier. Et comment tu as fait pour ce qui a été un petit peu instruction, école et tout ce qui va autour, documents officiels, comment ça se fait? Ça prend 3 ans, 5 ans, c'est
alors
dur
moi, ça m'a pris à peu près un an et deux ans. Deux
D'accord.
ans de formation. Mm-hmm. Formation initiale de base en France pour travailler dans les animaux, il faut avoir l'attestation de connaissance pour les animaux d'espèces domestiques, donc la CACED, qu'il faut passer. C'est une attestation, un brevet, un diplôme, peu importe, qui est donné par le ministère de l'Agriculture et de la Pêche. Ensuite, on peut passer d'autres spécialités, en particulier le diplôme de comportementaliste félin qu'on passe. Alors moi, j'ai eu la malchance de passer ça pendant le Covid, donc j'ai fait que du distanciel. J'ai pas eu l'occasion de faire des cours en vrai, ce que je regrette. Mais bon, après, on s'adapte avec les moyens de formation d'aujourd'hui. Et par la suite, on est en perpétuelle formation complémentaire avec des organismes comme Vox Animae, Animotopia et du Chatter qui sont des organismes de formation, parce que c'est un métier qui est en constante évolution. C'est un nouveau métier, pas trop connu, mais qui évolue perpétuellement, avec toutes les études qui sont faites par des vétérinaires, par des éthologues, par des chercheurs, en particulier, malheureusement pas trop en France, mais beaucoup outre-Atlantique, beaucoup aux États-Unis, beaucoup au Canada, et l'évolution se fait de manière continue, et on doit se mettre au diapason quasi tout le temps, quoi. Moi, là, j'ai encore des formations en juin, j'ai des formations en juillet avec ces organismes-là, Vox Animae en particulier, et on est obligé de se tenir au courant parce que c'est une science, entre guillemets, qui évolue tous les jours.
Oui, parce qu'on doit... Voilà, c'est ce que j'allais dire. On doit faire des découvertes, même à travers vous, ce que vous faites, et peut-être quelques remontées d'informations des fois, faire des découvertes et faire avancer un petit peu le chemin, comme on pourrait dire. Alors, on attaque quelques questions, puisque moi, j'ai quelques questions de préparer par rapport à des gens que j'ai vus aujourd'hui dans la rue. Est-ce que, Aude, tu as une question pour Robert ?
J'ai une grande question. J'ai même envie de dire, je pense que c'est la grande question. Moi, j'ai une minette qui a 15 ans. Bon, j'aime beaucoup les chats, mais particulièrement la mienne, bien sûr. Moi, j'ai...
C'était un lundi soir qu'il y avait Didier de Giordano. Là, tu passais pas. Manu, tu as voulu te retenir. Mais moi...
Retenez-vous, les gars.
Vas-y.
Donc j'aime particulièrement ma minette et je suis persuadée, enfin j'ai vu à travers ses comportements au fil des années, parce que ça fait quand même 15 ans qu'on vit ensemble, je suis persuadée qu'elle est loyale et qu'elle est, je suis sûre qu'elle est déjà intervenue à mes côtés pour me protéger de situations qu'elle sentait conflictuelles. Alors, est-ce que je me fais une idée ou pas ? J'en sais rien. Et donc, moi, ma grande question, c'est est-ce que vous pensez que les chats sont attachés à leur maître ou est-ce que vraiment c'est juste une relation d'intérêt, comme on l'entend souvent ?
Moi, je suis persuadé qu'ils sont attachés à leur maître. Par contre, ils choisissent. Déjà, j'aime pas le terme maître.
Ouais.
C'est un terme que je n'emploie pas, ni propriétaire, ni maître. De toute façon, c'est une relation entre deux êtres vivants qui s'instaurent petit à petit. Et le terme humain de chat, le terme, me paraît plus approprié.
Ouais.
Et effectivement, je me rends compte que chaque chat va choisir un humain et le protéger. Tu as tout à fait raison d'utiliser ce terme parce qu'ils ont un côté protecteur, ne serait-ce que par exemple par le ronronnement. On sait très bien que le ronronnement, avec ses fréquences, va calmer l'humain, voire même guérir l'humain.
Tout à fait.
On sait que le chat peut maîtriser les fréquences pour se soigner lui-même, voire soigner un autre chat, une chatte peut soigner ses chatons.
Ok, je connaissais pas ça.
Et ils peuvent utiliser le ronronnement, justement, pour apaiser l'humain. Il n'y a rien de mieux que s'endormir avec un chat qui ronronne à ses côtés.
Tout à fait. Et j'ai envie de rebondir là-dessus parce que du coup,
profite ce soir.
Ce qui est marrant, c'est que je trouve que ça marche à l'inverse. C'est-à-dire que mon fils et moi, quand on emmène le chat chez le véto, en fait, on essaye de l'apaiser. En fait, en se synchronisant avec le chat sur la respiration. Donc, en fait, on pratique ce qu'on appelle la cohérence cardiaque à côté du chat. Et le chat, en quelques minutes, s'apaise avec nous, en fait. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça marche dans les deux sens, quoi.
C'est réciproque. Ouais. C'est tout à fait réciproque. Ils savent très bien qu'on les protège. Et dans la mesure du possible, ils essaient de nous protéger aussi.
Ouais, je suis contente.
Très bien, très belle intervention. Et je suis d'accord que le chat choisit aussi. Moi, j'ai connu ça avec 2-3 chats parmi tant d'autres. Je crois qu'on ne choisit pas un chat, c'est le chat qui nous choisit.
Je suis d'accord.
Enfin, tu as tout à fait raison.
C'est mon avis.
On choisit pas.
Alors là, je vais avoir des questions. Je t'avertis, c'est peut-être pas forcément des questions trop intelligentes, mais j'ai promis aux gens que j'allais les poser. Alors, une personne me dit « Mon chat urine à côté de la litière », mais aussi la personne a rajouté, et elle est peut-être consciente de ça, « Une fois qu'elle faisait, elle nettoyait ensuite à la Javel. » Et on sait peut-être que la Javel ratire à nouveau le chat, peut-être, pour faire son besoin.
Alors, c'est pas tout à fait vrai. En fait, les chats n'aiment pas la Javel.
D'accord.
Contrairement à la légende urbaine qui dit qu'il l'aime, en fait, le chat, il n'aime pas cette odeur, l'odeur de l'ammoniaque. Et en fait, il va recouvrir cette odeur avec quelque chose qu'il a de plus près. Ça peut être l'urine, mais ça peut être aussi tous les signaux sémiochimiques qu'il va émettre avec ses glandes, les glandes sébacées, caudales, etc. Et on voit souvent des chats se frotter sur... une table ou un sol, on a mis de la Javel, parce qu'il va couvrir cette odeur. Okay. Donc si on nettoie effectivement un bac à litière avec de la Javel, ce qui va se passer, c'est que le chat, il va recouvrir un petit peu, il va faire pipi une fois, deux fois, trois fois, puis arrive un moment, il va comprendre que ça ne sert à rien, et du coup, il va faire pipi ailleurs.
D'accord. Okay. Une autre personne, toujours sur l'urine, je suis désolé. Alors, c'est une personne qui, je ne rentre pas dans les détails, mais faisait... normalement aux toilettes, mais son chat montait sur ses genoux. Bon. Et par la suite, elle fait pipi, et une fois qu'elle part des toilettes, c'est promis, elle me dit, le chat monte sur les toilettes et urine sur la cuvette des toilettes.
Génial.
Est-ce que... Ouais, non, mais est-ce qu'il y a...
Est-ce
qu'il y a chose qui...
Il urine sur la cuvette.
Non, il se met en position, il urine dans...
Mais c'est génial.
Dans les toilettes. Est-ce que c'est juste un fun ou bien il y a quelque chose à expliquer
Alors, il n'y a rien à expliquer parce que le protocole d'urine chez le chat, c'est vraiment de couvrir la mission, de couvrir l'urine. Parce qu'en fait, dans la nature, il va forcément, comme c'est à la fois un prédateur, petit prédateur, mais une proie pour beaucoup d'animaux, il va toujours couvrir et laisser le moins d'odeur possible. Donc pour moi, c'est un non-sens que le chat fasse dans la cuvette des toilettes. Il y a même des systèmes qui incitent le chat à le faire. Et je suis intervenu chez des gens, ça avait complètement tellement perturbé les chats. Il y en avait deux, des caca et pipi partout dans l'appartement. Et on a mis 6 mois à s'en sortir. Donc pour moi, éthologiquement, ça ne veut pas. Et après, s'il le fait, je me demande bien pourquoi.
Alors, Robert, excuse-moi, mais donc qu'est-ce que je dis demain à la personne? Est-ce qu'elle empêche maintenant, dorénavant, son chat d'aller faire ses besoins de temps en temps sur la cuvette des toilettes, ou elle laisse continuer, puisqu'apparemment, ça ne crée pas de problème non plus, hein?
Est-ce que la quai, est-ce que le bac est propre? Est-ce que le bac est à proximité? Est-ce que le substrat est utilisé de bonne qualité?
Je lui demanderai.
Si le chat ne va pas dans sa caisse.
Si, pardon. Excuse-moi. Apparemment, il y va, mais de temps en temps aussi, il voit la maîtresse aller aux toilettes. Et s'il avait peut-être besoin, comme ça, il y va juste après. Après, bon, voilà, je ne peux pas t'en dire
c'est
plus.
C'est particulier. Après, il faut laisser le choix. Si ça gêne personne et si le chat n'est pas malheureux et qu'il a toujours la possibilité d'aller dans un bac normal. Moi, je laisserais faire.
D'accord.
Moi, j'avoue que je me suis emballée. Je trouve ça extra parce que quand tu habites au 5e étage et qu'il faut changer la caisse et te monter la litière, le chat qui va aux toilettes, j'avoue, je trouve ça extra. Bon,
il ne tire pas la chasse. Okay. Rigoler. Autre question. Alors là, s'ils écoutent l'émission, j'avais promis. Donc, le chat a 8 ans. C'est une fifille, me dit-elle. Elle fait une pelade du ventre. Elle se lèche jusqu'à s'enlever les poils. Donc, c'est une chatte aussi qui sort. Elle est en liberté. Elle semble être très bien. Mais elle est embêtée par d'autres chats à certains moments. Est-ce qu'il y a une cause à effet? Est-ce qu'il y a une relation?
Alors, alopécie psychogène, c'est un des cas qu'on traite parce que c'est une manifestation du comportement. On appelle ça un TOC pour un animal, on appelle ça une stéréotypie. Si vous pouvez vous imaginer, on a souvent vu des tigres ou des fauves qui tournent en rond dans des cirques ou dans certains zoos. C'est un peu ça. En fait, on en arrive au stade où il y a une espèce de cercle vicieux qui va se créer, où à l'origine, le chat va commencer par se lécher parce qu'il est stressé, donc il va intensifier sa toilette. Et comme avec sa langue un peu râpeuse, il va s'abîmer un petit peu, laisser des petites lésions sur sa peau, ça va le gratter, ça va le piquer, du coup, ça va l'énerver encore plus. Et on arrive à ce cercle vicieux qui finit par ce qu'on appelle une alopécie psychogène, qu'on traite d'abord en voyant le vétérinaire, parce qu'il faut vraiment vérifier que cette alopécie soit pas due à... la principale cause d'alopécie, on va dire, c'est la dermatose allergique aux piqûres de puces. C'est la première cause d'alopécie. Après, on a les allergies alimentaires. Après, on a ce qu'on appelle l'atopie, c'est une hypersensibilité à tout ce qu'il peut avoir dans l'environnement, les pollens, des allergènes, des poussières, des moisissures. J'ai une chatte qui était allergique aux moisissures dans la salle de bain et qui nous a fait une pelade parce qu'il y avait trop de moisissures. C'était humide, bon, peu importe. Et ensuite, on va passer à l'alopécie psychogène qui consiste à traiter le stress parce que là, on est à un stade où le chat ne sait même pas pourquoi il se lèche, mais il continue à se lécher. En fait, c'est une forme de... C'est comme un TOC chez l'humain, mais on appelle ça une stéréotypie chez l'animal.
D'accord.
Il y a du travail, parce que quand un chat, on arrive à se dépiler comme ça et s'enlever les poils, on est à un stade de stress plus. Elle devrait consulter rapidement.
D'accord. Mais d'autre manière, je crois qu'elle nous écoute, et peut-être que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, et qu'elle te contactera peut-être, je ne sais pas. D'ailleurs, si les gens qui nous écoutent, certaines personnes veulent te contacter, ils font comment? Il y a un site internet, il y a un blog, il y a un numéro de téléphone?
Alors, j'ai un site internet, c'est psychat.fr, sur lequel on peut me contacter après par téléphone. J'ai une page Facebook.
Psychat,
Psychat. Voilà. Psychat comportementaliste félin, une page Instagram aussi, Psychat comportementaliste félin, qui sont liées l'une à l'autre. Et voilà, et puis c'est particulier. Et puis il y a un lien Google avec un Google My Business où on me trouve en tapant psychiatre sur Google, sur le moteur de recherche.
Et les gens pourront réécouter le podcast de cette émission pour, si jamais, noter ça tranquillement. Alors, deux autres questions, après on repart sur d'autres choses. Le chat, après stérilisation, change de comportement, elle développe des peurs. Pourquoi ?
Des peurs, je crois pas. En fait, il y a une modification effectivement du comportement parce qu'on touche à des choses quand même assez profondes. Hein. La peur chez un chat stérilisé, castré, non, c'est pas systématique.
D'accord.
C'est pas systématique. Par contre, il se peut que l'opération se soit mal passée. Mmh.
Bon, ça, de toute manière, tu pourrais le savoir que si tu vois l'animal et que tu puisses quand même un petit peu...
Oui, parce qu'après, l'anxiété...
Le cercle où vit l'animal...
Non, le chat, il peut avoir peur de quelque chose, mais le lier à la castration ou la stérilisation, ça m'étonne.
Alors, la dernière, elle est pas mal. Pourquoi ? Alors, j'ai noté ce que l'on m'a dit, hein. Pourquoi à chaque fois que tous les membres de la famille prennent leur douche, donc c'est une baignoire, c'est terminé, le chat est là derrière la porte, il attend. Eh bien, il s'empresse d'y aller, il lèche le parterre de la douche, ou de la baignoire, donc.
Est-ce qu'il a suffisamment à boire ?
Oui, ben, oui, c'est logique.
Ouais. Moi, je sais que j'ai un de mes chats, Phoenix, un Maine Coon, qui prenait quand il était petit, il venait systématiquement sous la douche avec moi. Donc il passait sous la douche, il ressortait trempé mouillé, ouais. Il était content, il m'en mettait partout. Donc il y a des chats qui aiment l'eau, il y a des chats, mais bon, le fait de lécher l'eau, à mon avis, ça veut dire qu'il a besoin de boire et qu'il boit à cet endroit-là parce qu'il ne peut pas trop boire ailleurs.
D'accord, donc je dirai demain à la personne qu'elle regarde si le bol du chat est bien rempli en eau. Alors... Voilà, on revient. Les questions les plus fréquentes qu'on peut te poser, les cas les plus fréquents auxquels tu as affaire, c'est quoi ?
Alors, le cas le plus fréquent, et tu m'as parlé de pipi assez souvent, c'est les éliminations en bac. C'est 40% de mes consultations, c'est élimination en bac, le terme consacré. C'est un chat qui ne va pas uriner ou déféquer dans la caisse qu'on lui a proposée, mais qui va faire... un peu partout, de préférence sur le lit, le canapé, des fois dans la douche. Après, je vais trouver les chats stressés, tout ce qui est stress et qui tourne autour des alopécies dont on a parlé, par exemple. Les chats agressifs, bon, ça arrive parfois que le chat se retourne un peu contre ses humains.
Oui, mais il y a toujours une raison.
Oui, pour des raisons qui, des fois, sont propres au chat et des fois propres... propre à l'humain. Des vocalisations excessives, le chat qui miaule un peu, mais généralement ça va soit avec l'âge, soit avec un problème de stress. Il y a des chats qui, un peu comme les personnes âgées, peuvent perdre un peu la notion du temps et peuvent se perdre même dans l'appartement ou dans la maison, et du coup vocalisent la nuit parce qu'ils sont perdus.
Donc, les déménagements peuvent provoquer ça peut-être ?
Déménagement, si on ne l'a pas fait correctement, si on n'a pas préparé un petit peu la vie du chat, l'arrivée du chat, le départ du chat, ça peut être traumatisant pour le chat. Oui.
D'accord. Alors, je ne vais pas te poser la question comment on ferait, parce que sinon, on y passe la nuit. Autre question, parce que tu dois avoir affaire à beaucoup de personnes qui ont beaucoup de questions, beaucoup de téléphones, de coups de téléphone. Donc, ton cas le plus bizarre qui a été proposé, tu l'as en tête ?
Oh, j'ai pas de cas bizarre. J'ai des cas... Plutôt sympathique. J'ai eu par exemple.
J'allais te demander celui le plus comique, donc c'est peut-être ça qui peut être retenu
alors,
dans ce cas-là.
Pas forcément comique, mais un cas qui m'a particulièrement touché et où je me suis beaucoup investi. Ce que je fais aussi, c'est de l'association chat-chat pour l'arrivée d'un nouveau chat, ou l'association chat-chien pour l'arrivée d'un nouveau chien, ou l'arrivée d'un bébé par exemple.
D'accord. Ouais.
Et là, on intervient en amont de la problématique pour pouvoir vraiment mettre tout ce qu'il faut dans les rouages pour que tout se passe le mieux. Et ce cas-là, c'est une famille. Donc lui, il avait perdu sa maman, qui avait deux chattes, deux sacrés de Birmanie. Et lui, il avait un gros chien, un griffon cortal, gros chien de chasse qu'on doit connaître en Corse. Un énorme chien, il fait 40 kilos. Hein. Et il se retrouve avec sa maman qui décède et il dit « Moi, je ne veux pas abandonner ces deux chattes, donc je les prends à la maison. » Sauf que le chien de chasse et les deux chattes, bon, c'était pas le top. Donc je suis intervenu et ils ont fait preuve de beaucoup d'abnégation et on a réussi. Et aujourd'hui, les chattes ne dorment pas encore dans les pattes du chien, mais tout le monde vit en harmonie et tout le monde se croise. Il n'y a plus d'agressivité ni de la part du chien ni de la part des chats.
Très bien.
C'est une histoire qui se termine bien.
Robert, on ne dirait pas, mais il y a déjà plus de 29 minutes d'intervention téléphonique de ta part et je t'en remercie parce qu'il fallait être disponible à ce moment-là. Est-ce qu'il y a peut-être une question ou deux que j'ai oubliée ? Il y en aurait beaucoup, même plus, mais est-ce qu'il y a une chose que tu veux rajouter ? Sinon, on passe au questionnaire de Proust réactualisé.
Non, moi sincèrement, ce que je dis, c'est vraiment... le chat, il a sa place dans la famille et il faut que l'humain, il doit intégrer le chat comme il est. Le chat, il va lui rendre à 1000% ce qu'il aura fait pour lui. Mais souvent, les problématiques rencontrées, c'est des maîtres qui ne maîtrisent pas l'éthologie et qui font des bêtises sans le savoir, ou qui écoutent un peu, qui lisent un peu trop ce qu'on voit sur Facebook. Ou, voilà, donc le conseil que je donne, si vous avez une problématique avec un de vos chats, ou, appelez un spécialiste, allez voir votre vétérinaire, appelez un comportementaliste, n'allez pas sur Facebook, ne commencez pas à traîner sur Google pour trouver des dizaines de milliers de solutions qui ne seront pas en rapport avec la problématique que vous avez.
D'accord, donc ne partez pas du principe de dire « j'ai lu, donc ». Voilà.
Voilà.
Alors, tu es prêt ?
Je suis prêt.
Une question, une réponse assez rapide. Si tu vois qu'elle t'embête, tu dis « je passe ». C'est bon pour toi ?
D'accord, ça marche.
Quelle est ton idée du bonheur parfait ?
Le chat.
Quelle est ta plus grande peur ?
Vieillir.
Quelle personne vivante admires-tu le plus ?
Ma compagne.
Quelle est ta plus grande extravagance ?
Avoir quitté mon métier pour tout abandonner et recommencer à zéro à 60 ans.
Oui, mais je crois surtout que ça a été une liberté pour toi. Quelle est la qualité que tu aimes le plus chez un homme ?
La franchise.
Quelle est la qualité que tu aimes le plus chez une femme ?
La franchise aussi.
Quel mot ou expression, tu vois, il y a toujours des fois un toc au niveau du mot ou d'une expression que tu abuses le plus, que tu sors le plus ?
Je passe.
Mao.
Mao. Il commence Manu. Mais c'est bien trouvé.
J'aurais pu le sortir.
Si tu pouvais changer une chose à ton sujet, ça serait laquelle ?
Ah, j'aimerais avoir 20 ans de moins.
C'est bien. Si tu devais mourir et revenir en tant que personne ou chose, qu'est-ce que ça serait ? Bon, à mon avis, c'est droit là.
Eh bien, je reviendrais dans la peau d'un chat.
Ben ouais. Où aimerais-tu vivre le plus ?
Ah, peut-être revenir à la maison.
Bah oui, quand même, on te le souhaite, Ajaccio. Quel est ton bien le plus précieux ?
Mon bien le plus précieux, ouais. Bah, je crois que c'est moi et ma santé.
D'accord. Qu'est-ce que tu apprécies le plus chez tes amis ?
La fidélité.
Quels sont tes écrivains préférés ou ton écrivain préféré ?
Baudelaire.
À quel personnage historique tu t'identifierais ?
Pascal Paoli.
Qui sont tes héros dans la vraie vie ou ton héros ?
Mon héros dans la vraie vie, je crois que j'en ai pas.
D'accord. Qu'est-ce que tu n'aimes pas le plus ?
L'hypocrisie.
Quel est ton plus grand regret ?
Mon plus grand regret, c'est d'avoir fait des études en économie, en gestion et de pas avoir. Mon plus grand regret, j'aurais pas dû écouter les gens qui m'ont dit fais des études pour être gestionnaire, manager et tout. J'aurais dû déjà commencer très tôt une étude dans les animaux.
As-tu une devise ? C'est l'avant-dernière question, rassure-toi.
Ma devise, c'est regarder devant.
D'accord. Et la dernière, la plus sensible, comment aimerais-tu mourir ?
Bah, pas, en fait.
Dormant. Bah, je n'aimerais pas dormir, je n'aimerais pas mourir, mais oui, ne pas souffrir, oui.
D'accord. Voilà. Robert, on te remercie, on ne dirait pas, mais quand même, 35 minutes, hein, ça passe vite. J'espère que ta compagne qui a écouté a apprécié. Donc, tu lui fais un gros bisou. Je te remercie encore une fois. Passe une bonne soirée et à très vite.
Merci.
Je te dirai quand
bien
le podcast...
Merci, fin juin.
Il n'y a pas de problème, je te dirai. Je te nommerai pour le podcast, comme ça tu pourras le faire tourner. Ça a été très intéressant. Encore une fois, merci à toi. À très vite. Eh ben, merci.
Merci pour toutes ces réponses.
Ciao,
merci.
Ciao.
Au revoir.
Bonne soirée. Ciao, ciao.